Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, il est manifeste aujourd'hui que les dirigeants du monde capitaliste sont incapables de maîtriser la crise de leur économie. Les chefs d'État, comme toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, des prix Nobel de l'économie aux PDG grassement payés, tous sont désarmés devant les soubresauts des marchés financiers. Les actions en bourse sont en hausse un jour, en chute libre le lendemain, au gré de la spéculation et de l'humeur de ce que l'on appelle les marchés financiers, en fait des grandes banques et des fonds de placement, qui jouent le sort de l'économie à la roulette russe. À ceci près que l'arme n'est pas pointée sur eux-mêmes, mais sur les classes populaires, et avant tout sur les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Car s'il est manifeste que la classe privilégiée ne contrôle pas sa propre économie, il est plus manifeste encore qu'elle veut en faire payer les dégâts au monde du travail. Sous prétexte que les États sont trop endettés et qu'il faut rembourser cette dette, tous les gouvernements d'Europe et du monde sont en train d'imposer des plans d'austérité drastiques à la majorité exploitée de la population, à celles et ceux qui n'y sont pour rien dans l'aggravation de l'endettement des États et qui n'ont jamais touché le moindre centime des milliards empruntés par les gouvernements auprès des banques. La bourgeoisie et ses serviteurs au sommet de l'État sont en train de nous préparer des coups pires encore. Ils sont en train de refaire le même coup qu'ils ont fait en 2008 pour sauver les banquiers en crise. Cette fois-ci, le prétexte, c'est de sauver l'euro pour les uns ou alors de sauver la Grèce pour les autres. Eh bien, ceux qui parlent du sauvetage de la Grèce sont les plus crapuleux. La population grecque subit depuis plus d'un an les licenciements massifs, notamment par l'État, la baisse des salaires, l'amputation des retraites, la ruine des petits commerces parce que les salariés n'ont plus d'argent pour acheter, et c'est cela qu'ils appellent un plan de sauvetage. Le plan d'austérité qui est imposé aux classes laborieuses de la Grèce n'est pas fait pour les sauver, mais pour les enfoncer dans la misère. Ceux que les gouvernements européens sont décidés à sauver, une fois de plus, ce sont les banquiers. Les banques françaises et allemandes en premier lieu, qui se sont jetées sur la Grèce comme des vautours pour lui prêter à des taux usuraires. Et maintenant qu'ils sont inquiets à l'idée que, même en pressurant toujours davantage les exploités grecs, le gouvernement ne puisse pas les rembourser, ils veulent que ce soit les États plus riches, la France, l'Allemagne, qui les remboursent. Pour soi-disant sauver les banques et l'économie, les États font des ponts d'or aux capitalistes. Mais l'argent qu'ils récupèrent directement par l'exploitation ou indirectement par les cadeaux de l'État, ils n'en font rien d'utile pour la société. C'est de l'argent qui est englouti dans les grandes fortunes, c'est de l'argent qui est dilapidé dans la spéculation et qui nuit à toute l'économie, à toute la société. Et c'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. Les intérêts de la dette, 50 milliards d'euros par an, sont en passe de devenir le premier poste de dépense budgétaire, devant l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on donne autant, voire plus aux banquiers qu'aux 12 millions d'enfants et de jeunes scolarisés pour les éduquer et pour les cultiver. Et attention, ce que le gouvernement veut réduire, ce n'est pas ce qu'il donne aux banquiers, mais c'est ce que lui coûte l'éducation de la jeunesse. Et tant pis s'il y a des classes surchargées d'un côté et des fermetures de classes de l'autre. Tant pis s'il n'y a plus de remplaçants, tant pis si on ne peut plus s'occuper des élèves en difficulté. On parle d'enfants ou de jeunes en échec scolaire, mais il vaudrait mieux dire qu'ils sont rejetés par le système scolaire. Ah, le gouvernement reportera la faute sur les parents ou sur les jeunes eux-mêmes, mais c'est lui le coupable. C'est lui qui fabrique une jeunesse déboussolée et désocialisée. C'est sa politique qui conduit la société vers la décomposition, vers la violence du chacun pour soi. Voilà pourquoi tous les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice de ceux qui dirigent la société et qui la dirigent si mal. Les travailleurs, les exploités, ne doivent pas se laisser impressionner par les problèmes des banques, de la dette, de l'euro ou de la crise, qui seront de toute façon utilisés contre eux comme des moyens de chantage pour qu'ils acceptent de se sacrifier. Le problème n'est pas de choisir parmi les décisions de la bourgeoisie laquelle permettra d'éviter la débâcle, aucune ne l'évitera. Les travailleurs n'ont aucun moyen d'empêcher les crises, sauf à supprimer le capitalisme lui-même. Par contre, ils peuvent empêcher que la classe capitaliste leur fasse payer la crise. Ils peuvent arrêter la dégradation de leurs conditions d'existence. 8 200 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement, avec les centaines de milliers de travailleurs qui ont été plongés d'abord dans le chômage, puis dans les minima sociaux? Comment pourrait-il en être autrement, avec les salaires et les retraites qui ne suivent pas le coût de la vie? Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier ou du gaz? Quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme des mutuelles et des assurances? Même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires, combien d'entre nous hésitent avant d'aller chez le dentiste ou avant de changer ses lunettes? Et puis combien d'entre nous renoncent à acheter ce que l'on appelle maintenant les médicaments de confort? Et pour les jeunes? Eh bien, pour les jeunes qui commençaient la vie active, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris de diplômés, qui n'ont pas trouvé de travail et qui n'en trouvent toujours pas. Et ce n'est pas faute d'envoyer des CV, d'accepter même des stages bidons, des petits boulots en intérim. Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est obligée de galérer pendant des années avant de trouver un vrai emploi. Alors, les classes populaires l'ont payée, cette crise. Et elles continuent de la payer avec ce qu'elles ont de plus cher, avec leur emploi, avec leur salaire, avec leur retraite. Autant dire que sur la balance des sacrifices, la taxation de 3% des plus riches ne pèse vraiment pas lourd. Elle s'apparente tout juste à une petite collecte de pièces jaunes faite auprès des plus riches. Quant à ceux qui défendent l'idée de taxer de 0,01% les transactions financières, ils sont en dessous de tout. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de taxes. On paye 2,1% quand on achète le moindre médicament. Et sur la majorité de nos achats quotidiens, on paye 19,6% de TVA. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de décider de surtaxer les sodas. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0,01% sur des transactions qui leur rapportent des millions et sur des transactions qui nuisent en plus à toute la société. Et ce serait ça le summum du radicalisme? Eh bien, avec de telles propositions, la bourgeoisie peut dormir tranquille. Alors, ce que nous, communistes révolutionnaires, avons à dire aux travailleurs, c'est que le chantage des ministres concernant la dette ne doit pas nous empêcher de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat, de défendre notre vie. Confrontés à la crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, ils réduisent la masse salariale, ils licencient. Certaines entreprises, tout en faisant de l'argent, se permettent même de baisser tout simplement les salaires. C'est le cas à la fonderie du Poitou Aluminium où travaillent 480 salariés à Châtellerault. La direction a annoncé la mise en place d'un plan de compétitivité avec une baisse de 15% des salaires ouvriers, une réduction du temps de travail à 35 heures et la remise en cause de 7 jours de RTT. L'addition de toutes ces mesures se chiffre à une perte de salaire de 23%, 350 à 500 euros par mois sur un salaire d'ouvrier. C'est ça où le licenciement menace la direction. Mais le groupe Montupé, propriétaire de la fonderie, a affiché des résultats financiers et industriels records sur le premier semestre 2011. Et la fonderie elle-même est bénéficiaire. Alors face à cette attaque en règle, les ouvriers de la fonderie du Poitou sont en grève totale. Lundi, ils entameront leur 6e semaine de grève pour sauver et leur salaire et leur emploi. Ils se sont lancés dans un combat long et difficile. Ils se sont lancés dans un combat long et difficile pour sauver leur peau. Nous sommes bien sûr de tout cœur avec eux. Avec la crise, les capitalistes mènent leur lutte de classe avec une violence redoublée. Eh bien, c'est à nous, les travailleurs, de mener aussi la nôtre. Oui, le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012, dont on nous parle du matin au soir, qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Alors la seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser ce rapport de force, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi son pouvoir sur les entreprises. Les journalistes me posent souvent la question: comment se fait-il que malgré l'aggravation de la situation, vous, les communistes révolutionnaires, vous n'êtes pas plus suivis? Et pourquoi l'explosion sociale que vous annoncez n'a pas eu lieu? Mais nous, les communistes révolutionnaires, nous n'avons pas de boule de cristal, nous n'avons pas plus que quiconque le don de la prévision. Ce que nous disons, c'est que cette explosion sociale est nécessaire, indispensable pour arrêter les coups portés aux classes exploitées. Non seulement les travailleurs ont le droit humain, moral, de refuser de payer la crise à la place des profiteurs de l'économie capitaliste, mais leurs intérêts se confondent avec toute la société. La pire chose qui puisse arriver serait qu'il n'y ait pas de réaction à la hauteur de la part des travailleurs. Car alors, tous les privilégiés, préoccupés seulement de leurs profits privés, totalement irresponsables à l'égard de la société, se sentiraient encouragés. Pourquoi s'arrêteraient-ils donc de spéculer si lorsqu'ils gagnent, ils empochent, et lorsqu'ils perdent, l'État leur vient en aide, avec l'argent prélevé sur notre dos? Alors, nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs, l'avidité des riches, le cynisme aussi de leurs serviteurs politiques, finiront par provoquer une explosion sociale. Nous en sommes certains parce que c'est la seule voie. Que les exploités croient ou pas aujourd'hui dans la possibilité des luttes n'y change rien, il faudra en passer par là. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle, par-delà notre catégorie, des objectifs qui unissent les travailleurs en activité à ceux qui ont été poussés au chômage, aux retraités. Le jour où les travailleurs entrent en lutte, il faut qu'ils sachent où ils veulent aller. Parce que la colère ou même la détermination ne suffiront pas. Il faut aussi avoir une claire conscience de nos intérêts de classe pour ne pas laisser des charlatans nous détourner vers des impasses et à plus forte raison vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer à eux, eh bien il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous ces responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. La crise, personne ne peut l'arrêter. Et toutes leurs tentatives dans ce sens depuis 3 ans le montrent amplement. Alors, nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos emplois et nos salaires. Il faut les défendre bec et ongles, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles, sans diminution de salaire. Et les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est précisément parce que cet argent est détourné aujourd'hui vers les opérations financières que la société crève. Eh bien, cet argent serait 1000 fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi défendre nos salaires et les pensions de retraite des anciens, en imposant leur augmentation conséquente pour rattraper le pouvoir d'achat perdu. Et pour les préserver, il faudra les indexer sur les hausses des prix, de sorte qu'à chaque augmentation de prix, les salaires et les pensions de retraite augmentent automatiquement. Alors, les patrons capitalistes nous expliqueront, ou plus exactement feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout cela n'est pas possible parce qu'il y a la concurrence internationale et parce que cela les ruinerait. Eh bien, qu'ils rendent donc publics leurs comptes. Pas leurs comptes officiels destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'il y a de l'argent, qu'il y a de quoi assurer l'emploi à tous les travailleurs sans licenciement et qu'il y a même de quoi augmenter tous les salaires. Oui, il faut imposer la transparence. Alors, au début de la semaine, on a appris que le numéro 2 de la PJ lyonnaise, un commissaire modèle, paraît-il, qui a même inspiré un film, est un policier ripoux, un mafieux, dans tous les sens du terme. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Il n'a qu'à copier ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Des valises africaines pleines de billets, des ventes d'armes avec rétrocommission, des écoutes téléphoniques, des intimidations et même des bombes qui explosent par mesure de rétorsion. Et tout ça se passe dans les plus hautes sphères de l'État. Ah oui, il y a de quoi être écœuré par toutes ces affaires, dont les protagonistes sont ceux qui nous font la morale du matin au soir. Alors je sais aussi que certains en concluent que le pouvoir corrompt et que c'est comme ça pour tout et qu'on ne peut rien y faire. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Le pouvoir peut être exercé collectivement, sous le contrôle de la population, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire, avec la Révolution française, avec la Commune de Paris et dans les premières années de la Révolution russe de 1917. Le pouvoir se confondait alors avec l'engagement et la participation directe de millions de femmes et d'hommes qui prenaient des initiatives, qui s'organisaient pour résoudre tous les problèmes de ravitaillement, de logement, d'éducation qui se posaient à eux. Quant à l'élection, elle n'octroyait aucun droit particulier, bien au contraire. La Commune de Paris, et par la suite, les révolutionnaires russes, ont payé leurs élus au salaire moyen ouvrier. Et il leur semblait tout naturel de pouvoir révoquer ceux parmi les élus qui ne respectaient pas leurs engagements. Aucun élu n'échappait au sort et au contrôle de la population. Eh bien, pour que le pouvoir soit dévoué à la collectivité, il faut qu'il aille du bas vers le haut. Il faut un contrôle actif de l'ensemble de la population qui veille à ses intérêts collectifs. Au contraire, l'appareil d'État capitaliste est organisé de façon à ce que tout échappe au contrôle de la population. Le secret, l'immunité, pour ne pas dire l'impunité, sont la règle. Une fois élus, les députés, les ministres, les présidents de la République peuvent renier leur engagement, ils peuvent marcher sur leurs promesses, faire l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Et même pris en flagrant délit de corruption ou autre malversation, ils sont protégés par l'immunité. Eh bien nous sommes contre cette immunité. Et nous sommes même pour que les élus puissent être, eux aussi, congédiés comme n'importe quel travailleur. « Alors on nous dit aussi que nous sommes en démocratie parce qu'il y a des élections. Mais il n'y a pas d'élection pour choisir tous ces hauts fonctionnaires qui sont inamovibles, qui prennent les décisions au jour le jour et qui assurent même la continuité de la politique pendant que tous les ministres se succèdent. Ceux-là, on ne les connaît même pas. Eh bien, que l'on vote pour tous ces hauts fonctionnaires, que l'on vote aussi pour le commandement de la police et que l'on vote aussi pour le commandement de l'armée. Le pouvoir doit aller du bas vers le haut en politique, mais aussi dans les entreprises et dans toute l'activité économique. Les capitalistes cachent leur course au profit privé et leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, de la société ou de l'environnement, eh bien il a interdiction de le dévoiler. Voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires, c'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Elle ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle. Et pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de le prendre en main, de se mobiliser et de s'organiser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Quant aux banques, qui ont une responsabilité écrasante dans la situation que nous subissons, il faut les empêcher de nuire. De plus en plus d'économistes, y compris de dirigeants politiques, défendent à nouveau l'idée de nationaliser les banques. La nationalisation redevient à la mode. Bien sûr, les banquiers sont des irresponsables et on ne peut pas leur laisser les commandes des banques, ils les transforment en salles de casino. Mais les nationalisations qu'ils proposent, c'est encore une façon de sauver les banquiers, de sauver leur fortune et leur sinécure. Eh bien, nous sommes contre le fait qu'en leur rachetant leur entreprise au prix fort, la population paye une première fois pour que les actionnaires ressortent gagnants avec la nationalisation, avant de l'être une seconde fois quand il y aura la reprivatisation. Nous sommes pour exproprier les banques, sans indemnité ni rachat, parce qu'on ne doit rien aux banquiers. En 2010, d'ailleurs, ces mêmes banques qui aujourd'hui sont dans la tourmente boursière ont fait des bénéfices extraordinaires. 8 milliards pour la BNP Paribas, 5 milliards pour la Société Générale, 3 milliards pour le Crédit Agricole. Et puis même si donc aujourd'hui ils vivent ces soubresauts boursiers, les bénéfices qu'ils ont annoncés au premier semestre de 2011 sont tout aussi juteux. Alors oui, pour les empêcher de nuire, il faut les exproprier sans indemnité ni rachat, puis il faut fusionner ces banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant. Même ceux qui se targuent d'être radicaux sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste pour le faire. Leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que des nuances qui ne remettent pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste et l'exploitation. Les grands partis, du Front national au Parti socialiste, jusqu'y compris le Front de gauche, ont malgré leurs différences une chose en commun. Ils se placent tous sur le terrain de l'organisation capitaliste de l'économie. Ils considèrent tous qu'il appartient aux riches, aux possesseurs de capitaux, de dominer l'économie et donc la société. Ils considèrent tous que l'efficacité de l'économie se mesure au profit qu'elle est capable de générer. Ils considèrent tous que la propriété privée des usines, des banques, des grandes entreprises, des chaînes commerciales est intangible, pour ainsi dire une loi de la nature, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas contester. Alors, il n'y a aucune raison de laisser le monopole de la parole à ces partis qui s'accommodent d'un ordre social injuste et d'une organisation économique aussi stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises ne sont pas engendrées par la misère et par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production, parce qu'on produit trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Aujourd'hui, dans la Corne de l'Afrique, 12 millions de femmes et d'hommes sont affamés. Mais on produit de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire, vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a de l'éducation dans la société. Et plus on a les moyens de soigner des maladies graves et de réaliser, y compris, des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Alors, à tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Et je voudrais m'adresser plus spécialement aux jeunes, pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de la crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle, la société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20 ou 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous défendre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière. Celle de 1936 en France, en Espagne. Mais toutes ces luttes, eh bien, elles ont été défaites. Et la société capitaliste a montré qu'elle était alors capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais voilà où la crise du capitalisme peut nous mener. Alors, chacun a le choix de ne pas se résigner à vivre dans cette société non seulement injuste, mais aussi irrationnelle et absurde. Chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles qu'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Bien sûr, la transformation de la société n'est pas l'enjeu de l'élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. La révolution ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne, eh bien, elle nous donne la possibilité de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Cette campagne, elle nous donnera un peu plus accès aux médias, mais ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants. Il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a l'activité des militants, des travailleurs conscients de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons... sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans la campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement ces idées, à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes. Je vous propose maintenant qu'on chante tous ensemble l'International, le chant des travailleurs.